Marie-Sabine Roger, comment vous est venue cette idée, vraiment, autour de laquelle va s'articuler le livre, de cette espèce de malédiction familiale qui frappe les mâles aînés et qui donc les condamne à mourir le jour de leurs 36 ans.
À 11h du matin, si possible, et de façon ridicule ou grotesque, si on peut aussi. En fait, je suis partie de plusieurs histoires vraies, dont on m'a parlé, mais j'ai vraiment complètement poussé ça au maximum. Alors, il y a quelques années de ça, je me rappelle d'un voisin qui nous avait parlé de sa famille en nous disant, comme ça, nous venions d'arriver dans un village et en nous disant d'une façon à la fois souriante et un peu inquiète, dans ma famille, les hommes meurent. Alors, je crois que c'était 45 ou 46 ans. Et nous avait dit d'ailleurs, mon anniversaire est dans 2 mois. Et ce qui est tragique, c'est qu'en fait, il est décédé 2 mois plus tard. Alors, je dis ça avec un demi-sourire, mais en fait, l'histoire est vraiment pathétique. Et ce monsieur est mort d'une façon qu'il n'aurait jamais dû se passer, un accident aussi stupide. Et à l'époque, évidemment, je ne me suis pas dit c'est un bon sujet de roman. Vous pensez bien que j'étais plus bouleversée qu'autre chose. Mais en même temps, j'ai beaucoup réfléchi à cette... Voilà, ouais. L'idée est restée. Et lorsque j'ai commencé à écrire 36 chandelles, donc bien longtemps après, parce que je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a plus de 30 ans, au bout de quelques temps, je me suis dit, en fait, cette histoire me rappelle quelque chose, quelque part. Alors, en fait, quand j'ai avancé dans l'histoire, je me suis amusée avec cette histoire-là, qui au départ n'était pas drôle. Et j'ai poussé au plus absurde, finalement, cette notion d'hérédité familiale, parce que sans parler de l'histoire tragique de ce monsieur, j'ai entendu très souvent autour de moi des gens dire finalement dans ma famille les hommes ne font pas ceci, les femmes font plutôt ça, nous avons toujours fait tel métier, nous avons tel type de maladie, et comme si nous arrivions au monde avec une espèce de sac à dos très lourd greffé sur les épaules, où avant même d'avoir fait nos propres choix, avant même d'avoir décidé ce que nous ferions de notre vie, quelque part, nous sommes déjà entre des rails, parce que ce poids familial nous dit de toute façon dans la famille, inutile de rêver, ça on ne l'a jamais fait, ou inutile d'espérer, ça ne se produira pas. Donc je suis partie vraiment de ça, de ces vies qui sont parfois coincées, qui deviennent des petites vies quelque part, parce qu'on n'a pas osé rêver suffisamment. Et ça a donné un roman qui est peut-être un peu différent des 3 derniers, si les lecteurs les connaissent déjà, où ils étaient habitués avec moi à un roman social, plutôt insolent, parfois drôle en tout cas j'espère, mais un roman social très contemporain. Et là j'ai ajouté en fait une notion d'humour peut-être beaucoup plus décalé, un petit peu d'onirisme aussi, quelque chose d'un peu fantastique. Voilà. Et j'ai finalement, en ça, rassemblé 2 moitiés de moi-même, puisqu'en jeunesse, il m'était arrivé souvent d'avoir des textes assez oniriques ou assez décalés par rapport à la réalité. Mais je ne m'étais jamais essayé à ça dans le domaine adulte.
Vous, par exemple, quelle hérédité comme ça vous avez dû subir? Qu'est-ce qu'on a essayé de vous transmettre, de vous imposer dans votre famille?
Dans ma famille, en fait, curieusement, j'ai pas été trop victime de ça parce que ma famille vient d'origines tellement diverses, y compris socialement, que je suis vraiment je suis une espèce d'être de transition, comme on dit des meubles, hein, vous savez, il y a une époque, hein, bon, voilà, je suis un meuble de transition. Dans ma famille, il y avait des gens, par exemple, qui étaient très, très lettrés et très cultivés, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Quand j'ai écrit La tête en friche, j'avais pas besoin de chercher très loin. Dans ma famille, je pense pas qu'il y ait eu d'analphabètes, mais des gens très peu cultivés, il y en a eu. Et il y en avait également qui étaient très cultivés. Donc, famille où on peut trouver des gens qui viennent de la terre, des gens qui ont fait de longues études, des gens qui ont fait du commerce, et des gens qui ont fait du petit commerce, du moyen commerce, et des gens qui ont fait des activités artistiques. Donc finalement, pas tellement marqué par l'hérédité par rapport à ça.
Il y a aussi peut-être, sans employer de grands mots, mais un autre message dans ce livre, c'est que finalement, ne pas connaître le moment de sa fin, de sa disparition, c'est une chance, finalement.
Mais oui, j'en suis convaincue. Enfin, on m'a posé la question récemment en me disant « Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait préférable de savoir l'heure et le jour ?» Je pense que ça serait préférable pendant toutes les années qui seraient très loin de la date. Mais plus on se rapprocherait de la date et plus la connaissance du jour de sa mort serait épouvantable à vivre, en fait. Alors,
vous résumez ça d'une formule. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, Mortimer parle, je crois, de son père et, qui était dépressif et qui lui dit, dans cette espèce d'aphorisme inoubliable, sa mort lui avait pourri la vie.
Oui, c'est ça. Parce que comme il connaissait lui-même la date de sa mort, en fait, au bout d'un moment, il s'était comme gelé sur place, frigorifié, il n'avait plus rien fait. Et il avait quelque part vécu sa vie comme s'il était dans la salle d'attente du dernier jour. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas construit autre chose. Alors, cette histoire de condamnation, ben, nous en sommes tous au même point. Hein. Nous arrivons sur Terre, quelque part, nous savons bien qu'un jour sera le dernier jour. Mais je pense que c'est une espèce de chance, effectivement, voire même de bénédiction pour ceux qui croient, de ne pas savoir le jour, justement. Ou alors, il faudrait avoir une sagesse, une sérénité, une grandeur d'âme et d'esprit suffisante pour pouvoir accepter ça et l'intégrer à sa vie. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des gens. En tout cas, ça n'est pas le mien. Je préfère ne pas savoir la date.
Alors pourquoi à tous ces morts successifs dans cette famille de Sim, enfin qui à l'origine qui était décimée, c'est ça ?
Décimée, oui, mais c'était encore plus dur à porter. Donc on a supprimé les accents.
Et alors vous avez dû vous amuser aussi à chaque fois en imaginant des morts absolument loufoques, baroques. Pourquoi ? C'était pour justement que ce ne soit pas trop morbide. Il fallait que l'on soit capable de rire de ces morts.
Oui, je pense qu'il est, il est important de rire de beaucoup de choses. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'avec ce même thème, vous serez sûrement d'accord avec moi, j'aurais pu écrire un livre complètement grave et tragique. Le thème d'une mort annoncée, ça a déjà été fait d'ailleurs, mais bon, j'aurais pu le faire. C'est pas ce dont j'avais envie. J'avais vraiment envie de m'amuser. Vous me dites que je m'amuse, mais c'est vrai, c'est très égoïste en fait. J'aime écrire et lorsque j'écris, il m'arrive d'avoir envie de m'amuser aussi et même surtout. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aborde pas des sujets graves. Tous mes romans partent de sujets graves, toujours. Mais j'essaye de les détourner, soit vers la tendresse, soit vers l'insolence, soit vers une forme de rire, pas cynique en tout cas j'espère, mais oui moqueur quelque part. J'aime bien ce côté-là, un peu potache peut-être aussi, mais j'aime bien ça.
Les personnages, bien sûr, il y a Mortimer, ce jeune homme qui pensait voir arriver la fin de ses jours au moment de son 36e anniversaire. Et puis, non, rien ne se passe. Il est condamné à continuer à vivre. D'ailleurs, ça crée d'un seul coup chez lui une espèce de vertige.
Mais c'est terrifiant parce qu'il n'a rien prévu pour la suite. C'est-à-dire qu'il s'est tellement mis dans l'idée que ce jour-là, à cette heure-là, ce serait fini, qu'il n'a absolument aucun projet de vie, aucun.
Vous faites une comparaison d'ailleurs que je trouve assez juste avec la carrière des grands sportifs.
Oui, quelque part.
D'un seul coup, tout s'arrête et si on n'a pas anticipé, on se retrouve face au vide.
Oui, c'est-à-dire que dans une vie, parfois, certains d'entre nous ont de grands projets, des rêves qu'ils cherchent à tout prix à atteindre. C'est bien, mais je pense qu'il faut avoir parfois un petit rêve de secours. Parce que si par malheur ou par chance, suivant comment on voudra l'interpréter, on arrive à réaliser ses rêves, il n'est pas inutile d'avoir quelque chose après.
Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais on souligne toujours votre talent pour brosser les seconds rôles, Paquita et Nassardine, qui tiennent une crêperie ambulante mais immobile.
Oui.
Mais je me demandais, où est-ce que vous allez puiser des personnages comme cela ? Est-ce que ce sont des hybrides de gens que vous croisez dans la vraie vie ? Est-ce que vous allez puiser comme ça, à droite, à gauche, et ensuite les recomposer ?
Je pense qu'il s'agit de ça, en fait. C'est une sorte de cocktail, quelque part. Je mets différentes petites traces de gens que j'ai pu connaître. Et puis, il y a la fiction qui lit le tout, quelque part. C'est une espèce d'alchimie. C'est vrai qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le roman, c'est d'essayer, après, je ne sais pas si j'y parviens, mais d'essayer d'avoir des personnages que l'on pourrait rencontrer dans la vraie vie, qui sont toujours un peu spéciaux, un peu particuliers, c'est vrai, mais qui pourraient néanmoins exister. Et pour moi, Nassardine et Paquita, je pense qu'ils peuvent exister. Alors c'est vrai qu'ils sont particuliers, c'est vrai. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont des crépiers ambulants statiques. Hein. Ils ont un camion à crêpes qui n'a jamais roulé. Mais ça aussi, ça leur correspond bien, ça les définit bien finalement. Ces gens qui ont des rêves finalement, dont le rêve est un peu bancal, un peu en rupture avec ce que l'on souhaite d'habitude. Ils ne cherchent pas à avoir énormément d'argent, ils ne cherchent pas à avoir énormément de possessions, ils cherchent juste à rester tous les deux ensemble. Ils sont tombés amoureux quand ils avaient respectivement 17 et 19 ans. Paquita en a aujourd'hui 57 et Nassardine 59. Ils s'aiment toujours autant. Et rien que ça, déjà, c'est magique. Et voilà, ce sont des personnages qui sont très contrastés, mais c'est aussi là-dessus que souvent marchent les couples. Elle est complètement ouverte, jalouse, elle est très présente auprès de lui, elle s'exprime beaucoup, et lui, quelque part, c'est un taiseux, c'est un sage aussi, qui voit les choses et qui ne dit rien, mais en même temps qui comprend tout. Et ce sont des espèces de parents adoptifs pour Mortimer, qui ne sont pas vraiment ses parents, mais ce sont les seuls adultes auxquels il a eu affaire qui soient à la fois des adultes positifs et attentifs. Voilà, on va dire ça comme ça, sans en dire plus, mais on va dire ça comme ça.
Et puis qui ne s'arrête pas au regard des autres, au regard porté sur eux-mêmes par les autres.
Bien sûr, parce qu'eux-mêmes, ils ont connu des regards pas toujours faciles. Ben, Anna Sardine, déjà, un regard un petit peu raciste qui l'a mis un petit peu à la porte des espoirs qu'il pouvait avoir. Finalement, il est arrivé en France très jeune, et puis ben, c'était le petit ouvrier arabe sur chantier qui n'était pas forcément apprécié par tout le monde. Et puis Paquita, elle vient d'une famille qui a un petit côté Zola aussi. On n'en parle pas beaucoup dans le roman, mais enfin, on comprend que voilà, chez elle, il y a parfois eu des choses un peu particulières ou une limite par rapport à la loi. Et c'est un personnage très attachant pour moi. Je la trouve très...
D'une allure, mais peut-être pas très raffinante. On peut même dire qu'elle est vulgaire d'apparence, mais qu'elle est noble à l'intérieur.
Exactement. Mais Mortimer dit lui-même, on ne peut pas dire qu'elle est vulgaire, on est dans une autre dimension. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elle s'habille d'une façon très, très, très spéciale. On pourrait vraiment croire qu'elle va aller racoler sur le trottoir dans la minute qui suit. Et en même temps, c'est une petite fille dans sa tête. Elle n'est pas du tout racoleuse. Elle n'aime qu'un seul homme. Elle n'aimera jamais qu'un seul homme. Mais elle a un style particulier. Voilà. Qui va bien avec le camion, les crêpes et la sardine.
Vous aimez ça aussi, aller à l'encontre des clichés, jouer avec ça, les casser.
J'aime bien parler de gens qui sont, encore une fois, un peu en rupture et qui surprennent parce que ce sont des gens à propos desquels on se fait une idée, on en a une opinion préconçue sur ces gens-là et ils nous surprennent. Dans la vraie vie aussi, c'est comme ça. On va de préjugés en opinion toute faite, et puis au fur et à mesure, on casse un petit peu toutes ces idées-là et on se rend compte que les gens derrière l'idée que l'on se faisait d'eux sont différents.
Il y a aussi toujours beaucoup de dialogue. Pourquoi c'est important? C'est une forme aussi là de restituer la vraie vie dans un livre.
Oui, je crois. D'abord, j'adore écrire des dialogues, c'est vrai. Je pense que ça fait des années que je le dis. J'aimerais un jour peut-être même aller vers le théâtre parce que j'adore les dialogues. Ça me plairait. Et puis, c'est la vraie vie, le dialogue. C'est le contact direct, c'est la vraie communication. Donc, je pense que je suis capable d'écrire autrement que par dialogue, bien sûr. Mais c'est là que je me retrouve le plus, ou surtout, c'est là que je retrouve le plus mes personnages.
Et avec aussi un sens, là on parle de votre écriture, hein, un vrai sens de la formule. Alors, elles viennent spontanément, parce que voilà, vous avez comme ça une verve naturelle.
J'ai un mauvais esprit.
Ou alors, c'est vraiment, vous les polissez, c'est du travail, vous cherchez.
Non, honnêtement, la plupart du temps, elles viennent. Je les cherche pas. Par contre, parfois, il peut m'arriver de retravailler la musique d'une phrase. Ça, c'est autre chose. C'est le travail d'écrivain. C'est l'arrière-boutique, ça. Mais sinon, non, les formules, je ne les cherche pas. D'ailleurs, si je cherchais les formules, quelque part, moi-même, je stériliserais mon écriture, en fait. Je n'aime pas les écritures à système. Alors, c'est vrai que chaque auteur a son système d'écriture, a sa cadence, son souffle, ses tics aussi, hein, bien sûr. Mais j'essaie de ne pas rentrer dans une écriture de système, de rester ouverte à toute possibilité.
Alors, je dirais finalement, vos livres, vos histoires, votre écriture, vous leur appliquez la règle des deux H, humour et humanité, parce qu'elles sont, c'est en vous aussi, ça, c'est dans votre ADN, vous les avez, vous les pratiquez dans la vie.
Alors, je sais pas, évidemment, si jamais je vous dis que j'ai à la fois de l'humour et de l'humanité, je fais aussi également preuve d'une grande prétention. Donc, bon, je pense que je parle de gens qui pourraient me toucher si je les connaissais dans les vraies vies, voilà, tout simplement. On ne peut jamais écrire que... Enfin, on ne peut jamais voir le monde qu'avec son propre regard, déjà. Donc, on ne peut jamais écrire qu'avec ce que l'on est, même si on se cache derrière ses doigts écartés, malgré tout. C'est vrai que je m'intéresse plus aux voisins de palier qu'aux gens réellement extraordinaires par leur diplôme, leur richesse, ou voilà, je m'intéresse à des gens que vous pourriez croiser dans la rue. C'est ceux-là qui, quelque part, qui me font rêver. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai peut-être de petits rêves, mais j'y tiens.
Donc vous écrivez ce qu'on pourrait appeler de belles histoires, des livres qui font du bien. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil qui est celui de la niaiserie?
C'est vrai que à partir du moment où vous allez vers un texte qui va être plutôt humain et plutôt tendre, effectivement, l'écueil, c'est de tomber dans le bon sentiment à tout prix. Je ne tiens pas au bon sentiment à tout prix. Je pense qu'il y a quand même quelques vacheries dans mes livres et quelques réflexions qui sont un peu acidulées, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que, disons que mes derniers romans, donc les quatre derniers romans publiés au Rouergue, vont effectivement vers, non pas une happy end, j'aime pas ça, mais j'essaye d'avoir des romans qui soient plutôt positifs. Même si, encore une fois, je pars toujours de thèmes qui ne sont pas très faciles. Que ce soit l'hérédité ou la solitude ou la mort qui va venir. Là, on n'est pas dans quelque chose de drôle. Et en fait, le jeu, c'est quelque part ça. C'est partir d'un thème qui n'est pas drôle du tout, essayer d'en faire quelque chose avec lequel les gens vont pouvoir sourire, peut-être même rire.